La transmission, elle nous concerne tous, elle est au cœur de notre humanité dans un mouvement qui donne, qui reçoit et qui redonne. C'est la transmission donc qui construit toutes nos relations et qui au fil du temps s'inscrit dans notre vie collective et individuelle. Et quels que soient les âges, nous sommes le fruit de ces échanges dont certains transforment durablement notre existence. Le dossier de la Tête au Carré s'intéresse justement cet après-midi à ce processus de transmission dans nos vies pour comprendre de quoi il est fait. Et c'est l'objet d'un livre collectif qui est sorti il y a quelques semaines et qui a été écrit par des psychologues, des spécialistes de l'éducation et des philosophes. Deux d'entre eux sont avec nous pour en discuter avec vos messages et vos témoignages que vous pouvez nous envoyer dès maintenant sur le site de l'émission. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une nouvelle piste prometteuse pour les chasseurs de matière noire.
Oui, ils ont observé des signaux très étranges provenant d'amas de galaxies lointaines. Un nouvel indice pour les chercheurs qui traquent depuis des décennies cette matière noire aussi invisible qu'indispensable dans l'univers. On fait le point sur cette enquête à la Sherlock Holmes avec l'astrophysicien Alain Riazuelo.
Et c'est Céline Hilla qui réalise l'émission aujourd'hui, préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Les mercredis psy et philo avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et donc la transmission, le thème de notre dossier dans un instant, alors qu'est publié Transmettre, un ouvrage qui est sorti aux éditions de l'Iconoclaste. Et je reçois donc deux de ses auteurs, la pédagogue Céline Alvarez et le chercheur en psychologie des émotions, Ilios Kotsou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et bienvenue Ilios Kotsou. On va donc dérouler ensemble ce fil invisible de la transmission hein, qui est au cœur, au fond de nos vies. On l'oublie beaucoup, mais c'est absolument essentiel.
Essentiel et bien souvent à notre insu, cette transmission s'inscrit chez nous en tant qu'individu, dans nos relations avec les autres, mais également au niveau de l'environnement et de la société tout entière. Et donc c'est vraiment important.
Et on verra justement, Céline Alvarez, avec vous, qu'il y a des conditions et des mécanismes qui sont favorables justement à la bonne transmission, on pourrait dire les choses comme ça.
Il y a même des mécanismes qui sont absolument non négociables pour que la transmission puisse s'opérer, notamment par exemple le lien. Il faut qu'il puisse y avoir un lien entre les êtres pour que la transmission opère.
Et c'est particulièrement essentiel au cœur de l'éducation qui est votre sujet de prédilection. On va en parler avec vous dans quelques minutes et avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission franceinter.fr. Et la une de la science aujourd'hui, un nouvel indice dans la compréhension de la matière noire.
Nous sommes au début d'une immense révolution scientifique, à l'échelle de la révolution copernicienne.
Trouver une particule de matière noire serait fantastique. Cela résoudrait la plus grande des questions de la science. De quoi est fait l'univers ?
Voilà, rien que ça. Ça, c'était en 2012, extrait d'un documentaire Le mystère de la matière noire qui avait été diffusé sur Arte. Et on parle maintenant d'un nouvel indice, une raie d'émission mystérieuse. Les scientifiques l'ont d'abord observé vers l'amas de Persée, puis vers d'autres amas de galaxies, des observations de rayons X encore incomprises, mais qui viennent d'être publiées dans Physical Review. Et ces résultats seront soit extrêmement importants, soit totalement ratés, selon le premier auteur de cette étude, Joseph Colomb, qui est chercheur à l'université d'Oxford. Et on parle de ces observations, Agnès, avec notre invité.
Alain Riazuelo, vous êtes chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et spécialiste de cosmologie. Bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que des scientifiques pensent détecter des particules de matière noire. En quoi ces travaux, cette fois, vous paraissent-ils intéressants ?
Alors, ils sont intéressants parce que toutes les autres détections supposées se sont avérées être infondées. Donc, le nouvel espoir, si on peut dire, ce sont ces observations anormales dans le domaine des rayons X en direction de certains amas de galaxies. Et comme on ne sait pas quelle est la nature de cette matière noire, tout phénomène astrophysique anormal pourrait être lié à cette matière noire dont on commencerait alors à détecter les propriétés.
Alors, il s'agit d'observations. À quoi elle ressemble, cette raie d'émission, ce signal lumineux dont on a posté la photo sur le site, sur la page Facebook de la Tête au Carré?
Donc, quand vous observez un amas de galaxies, évidemment, vous voyez individuellement les galaxies, puisque vous voyez l'émission des étoiles de chacune de ces galaxies. Maintenant, si vous observez cet amas de galaxies dans le domaine des rayons X, vous voyez autre chose en plus, c'est-à-dire que vous voyez l'émission d'un gaz chaud qui est entre les galaxies. Et qui est très ténu, donc il n'émet pas de lumière visible, mais comme il est très chaud, il émet des rayons X. Et quand on analyse en détail l'émission dans le domaine des rayons X, à la fois des galaxies et de ce gaz chaud, on a l'impression qu'il se passe quelque chose de particulier dans une longueur d'onde particulière ou dans une couleur particulière, si vous voulez. Et cette anomalie, on n'arrive pas à l'expliquer par des phénomènes astrophysiques conventionnels. Donc si on n'arrive pas effectivement à l'expliquer par des phénomènes conventionnels, c'est peut-être quelque chose de nouveau.
Mais alors, Alain Rietz-Velo, cette matière noire, ce serait quoi en l'occurrence? Ce serait le gaz lui-même ou ce qu'il y a dans son environnement?
Alors, le gaz interagit avec cette matière noire et donc, la façon dont il interagit ou dont la façon dont la matière noire interagit avec la lumière émise par ce gaz trahit sa présence. Mmh. Donc l'idée, c'est de se dire, que, par exemple, que la matière noire est une particule instable, qu'elle se désintègre, par exemple, quand elle rencontre une de ses congénères, mmh. et que donc elle se désintègre en deux grains de lumière, deux photons, ce qui causerait un excès d'émission dans une couleur précise. Ou alors, quelque chose de plus compliqué qu'est-ce qui est envisagé là, c'est un phénomène de fluorescence. C'est-à-dire que la matière noire absorberait de la lumière et presque instantanément la redistribuerait dans une direction aléatoire. Mm-hmm. Ce qui se traduirait par le fait que la source principale de rayon X apparaîtrait moins lumineuse, puisque dans la direction du centre de l'amas de galaxies, ça serait moins lumineux. Et dans le pourtour de l'amas de galaxies, on aurait ce phénomène de diffusion qui le rendrait un peu plus lumineux.
Il y a même de la transmission, c'est le thème de notre émission, dans la matière noire apparemment. Voilà.
Avec une fluorescence. Et donc, pour terminer, au niveau des couleurs, ça fait une sorte de halo rose et bleu, très brillant. Hein.
Alors, quand on montre ces images-là, en général, c'est des images composites. Mm-hmm. Donc, vous avez une composante visible qui est souvent en vert, une composante dans le domaine des ondes radio qui est en rouge et une composante dans le domaine des rayons X qui est en bleu. Mm-hmm. Et si on regarde l'image, on voit que la composante la plus étendue, c'est celle en bleu dans le domaine des rayons X qui vous indique qu'il y a beaucoup de gaz chaud très ténu au-delà de l'extension visible des galaxies.
Mm-hmm. Alors ce signal lumineux étrange et inattendu, il a été observé pour la première fois en 2014. Et donc c'était où? C'était vers l'amas de Persée?
Dans quel coin?
dans la constellation Persée que l'on voit en ce moment la nuit, donc un des amas de galaxies les plus proches situés dans cette direction s'appelle assez logiquement l'amas de Persée. Et donc on a observé des choses un peu bizarres avec des télescopes à rayons X dans plusieurs amas. L'amas de Persée est intéressant parce que c'est le seul qui a eu le temps d'observer un satellite lancé en 2014 qui s'appelait Itomi, un satellite japonais, qui malheureusement suite à un problème de conception...
quelques péripéties, oui.
Voilà, quelques péripéties qui ont mené à sa perte, à sa destruction complète. Et donc les seules données intéressantes recueillies par ce satellite, qui avait un mode d'observation un peu différent des autres satellites, proviennent de cet amas de Persée.
Ouais.
Donc c'est celui-là qu'on étudie préférentiellement, parce que c'est le seul où on a des données un peu plus précises grâce à ce satellite japonais. Ouais.
Ça veut dire que depuis 2014, on essaie de comprendre si c'est vraiment de la matière noire?
Alors, depuis... Enfin, ça fait assez longtemps que, dans le domaine des rayons X, on observe des choses que, pendant un temps, on croit être une anomalie, dont on espère que ce soit une signature de la matière noire, et dont il s'avère, après un an ou deux d'analyse plus approfondie, que c'était un phénomène conventionnel auquel on n'avait pas pensé. Donc ici, on est dans cette phase d'enthousiasme où on ne trouve pas d'explication conventionnelle et où donc on espère que la seule explication, c'est la matière noire. Maintenant, on a eu des espoirs douchés par le passé avec d'autres observations un peu différentes. Donc, les gens sont prudents.
Dès qu'on raye une à une les hypothèses, on dit, bon, cette fois, c'est sûr, c'est la matière noire.
Voilà, c'est un peu le principe du raisonnement de Sherlock Holmes. Quand toutes les hypothèses simples ont été invalidées, la seule hypothèse qui reste, même si elle est extraordinaire, c'est forcément la vérité. Mais pour faire ça, il faut être sûr que l'on a épuisé toutes les hypothèses simples. Et dans un livre policier, c'est assez facile. Mm-hmm. Dans la vraie science du monde réel, c'est parfois plus difficile.
Donc l'enquête se poursuit.
Mais cela dit, Itomi, donc, avant de défaillir, il a quand même ramené quelques images, certes floues, voilà, de ce signal lumineux, mais il n'est pas le seul non plus à les avoir observées, et dans plusieurs amas de galaxies.
Exactement.
Il y a quand même plusieurs preuves.
C'est difficile d'observer le ciel dans le domaine des rayons X, parce que les rayons X, ils passent à travers la matière. Donc si vous prenez un télescope classique et que vous envoyez des rayons X dessus, les rayons X vont passer à travers le télescope et vous n'allez rien détecter. Donc les télescopes qui observent les rayons X, ils ont une structure assez différente d'un télescope classique. Et en plus, ils doivent être envoyés dans l'espace, puisque l'atmosphère terrestre filtre les rayons X. Donc c'est assez compliqué de fabriquer ces objets, et c'est assez compliqué à la fois d'avoir une bonne qualité d'image, donc une bonne vision, et d'avoir une bonne vision des couleurs, c'est-à-dire bien identifier l'énergie individuelle des grains de lumière que vous recevez. Et donc les télescopes qui existaient avant 2014 étaient des télescopes qui avaient une bonne vue, mais qui étaient daltoniens. Et ce télescope japonais, il était pas daltonien du tout, mais il était myope. Et donc,
ce qui est embêtant pour un télescope quand même, non, un petit peu.
Dans le domaine des rayons X, c'est difficile de pas être myope en fait. Et donc, on n'a pas eu le temps finalement.
Il est mort trop vite.
Voilà, il est mort trop vite. On n'a pas eu le temps de bien calibrer l'instrument pour être sûr que le peu d'observations qu'il avait fait était robuste. Et donc, dans les analyses qui ont été faites depuis, les résultats de ce satellite japonais qui semblait en contradiction avec les télescopes à rayons X existants ont en fait été réconciliés. Mais pose un problème encore plus épineux qu'avant, c'est-à-dire que l'émission dans le domaine des rayons X qu'on a finalement observée est vraiment bizarre.
Allez Agnès, une dernière question.
Et donc la prochaine étape pour savoir s'il s'agit de matière noire ou pas, c'est de construire un nouvel instrument du coup.
Alors d'essayer d'utiliser les instruments existants pour mieux observer l'amas de Persée et quelques autres, mais ça c'est compliqué pour des raisons techniques. Disons on est à la limite de ce que les télescopes existants savent faire, et sinon effectivement attendre la prochaine génération de télescopes à rayons X, mais comme tout projet spatial, l'échelle de temps c'est plutôt 10 ans. Donc, on a encore du temps à attendre.
Bon, ce qui fait qu'on est peut-être en train de discuter d'une très très grande découverte, la première détection directe de matière noire, mais on n'en a pas encore la preuve. C'est un peu ça, l'arrière de l'eau.
On n'en a pas encore la preuve, et malheureusement, on a plusieurs fois, par le passé, été dans cette situation-là, et à chaque fois, les espoirs ont été douchés, donc les gens sont d'un optimisme prudent, disons.
Mais c'est bien, et c'est aussi tout à fait la démarche scientifique. En tout cas, on a cette image sur le Facebook de la tête au carré pour essayer de voir peut-être ce cliché qui, un jour, sera peut-être vraiment un cliché historique.
Absolument.
On verra ça dans quelques années. Merci Alain Riadvelo et Agnès, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la maladie peut-elle se lire sur le visage? Eh bien, oui. Selon une étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society, les chercheurs ont pris des photos de 16 volontaires à qui ils ont injecté soit un placebo, soit une bactérie censée faire réagir leur système immunitaire de la même façon qu'une infection. Ils ont ensuite montré ces photos à 62 personnes. Elles devaient se prononcer sur leur état, malade ou en bonne santé, en observant les visages. Eh bien, résultat, la maladie a été identifiée à 81%. Alors, quels sont les signes qui ne trompe pas? Eh bien, selon les chercheurs, le teint et les lèvres pâles, des paupières lourdes et le visage bouffi. Les hommes ont emmené leurs microbes dans l'espace et en particulier dans la Station Spatiale Internationale. Une équipe de la NASA les avait recensés début décembre et les voilà désormais identifiés. Il s'agit de microbes tout à fait ordinaires, rien à signaler, mais c'est la première fois quand même que les astronautes collectent et séquencent des échantillons dans l'espace en vue d'identifier les microbes. Des recherches qui pourraient permettre de diagnostiquer des maladies d'astronautes, voire d'identifier une vie microbienne extraterrestre. Et puis, il voulait vivre éternellement. Shishi Wangyi, le premier empereur de Chine né au 3e siècle avant notre ère, avait ordonné à son administration de lui trouver un élixir d'immortalité. C'est ce que montre en tout cas le décryptage d'un document trouvé au fond d'un puits en 2002 dans le centre de la Chine. Un de ces textes gravés sur des lamelles de bois reliées par des ficelles est un décret impérial. Il porte donc sur cette recherche nationale d'élixir d'immortalité. Et on peut y lire aussi les difficultés des autorités locales pour lui donner satisfaction. Au total, plus de 200 000 caractères chinois calligraphiés ont été découverts il y a 16 ans et les archéologues n'ont toujours pas fini de les interpréter. Et on parle de transmission dans un instant. Futuropello avec Bluff.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et nous parlons de la transmission, c'est donc le thème de l'émission cet après-midi à l'occasion de la sortie d'un livre il y a quelques semaines, livre collectif qui s'appelle « Transmettre, ce que nous nous apportons les uns les autres » qui est paru donc aux éditions de l'Iconoclaste. Et je reçois deux de ses auteurs, la pédagogue Céline Alvarez et Ilios Kotsou. Vous êtes Ilios Kotsou, chercheur en psychologie des émotions à l'Université Libre de Bruxelles. Et les auditeurs nous rejoignent donc pour discuter de ce thème avec les messages, les témoignages peut-être et les questions, franceinter.fr et le mot-clé « L'attaque ». Ilios Kotsou, d'abord, il faut dire un mot sur l'origine du projet, de cet ouvrage, projet éditorial donc, qui regroupe plusieurs auteurs dans différentes disciplines, et puis qui découle de ces journées émergences que vous organisez chaque année à la rentrée de septembre à Bruxelles.
Complètement. Donc des journées où le but est en même temps de mettre autour d'un thème qui était ici transmettre des regards très différents, où on peut avoir un philosophe, un scientifique dans les sciences dures, une pédagogue, et ainsi de suite, et des grands témoins, et qui permettent d'éclairer avec des regards très différents qui donnent pour ce public quelque chose de très intéressant. En même temps, les intervenants parfois ne se sont pas rencontrés, ce sont des choses très riches, et on partage ça avec un public très large. Il y a une finalité aussi sociale qui est que l'ensemble des revenus de ces journées, qui est assez conséquent, va financer des projets de solidarité. Par exemple, le SAMU social, des projets d'école pour des enfants qui ont moins de chances que les nôtres, et ainsi de suite.
C'est le cas du livre aussi ?
C'est le cas du livre, oui. Donc tous les droits de ce livre vont au projet de solidarité, donc l'ensemble des auteurs a laissé les droits pour financer des projets de solidarité. Et donc, il y a vraiment une dynamique autour de ce projet-là qui est une dynamique très positive.
Alors, on connaît bien ceux qui vous rejoignent chaque année, comme par exemple Christophe André ou Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, qui sont des fidèles de ces rendez-vous, et puis Catherine Guéguen ou Céline Alvarez, donc dans cette nouvelle édition 2017, et donc ce livre qui vient de sortir. La transmission, donc, au cœur de notre condition humaine. Alors, justement, dans le premier chapitre du livre, vous essayez de définir ce qu'est cette idée de transmission. Ce qui n'est pas toujours très simple, hein, parce que c'est une définition assez prolixe qui va puiser dans plusieurs domaines. Comment on peut définir justement ça, cette idée de transmission ? Qu'est-ce que vous aviez envie d'en dire aussi au départ, finalement ?
Mais peut-être que dans un monde de communication, on communique tellement. On a des moyens de communication extraordinaires, vraiment intéressants. La communication, c'est plutôt le transport d'une information dans l'espace, entre nous ici, les auditeurs. Alors que pour la transmission, ça doit s'inscrire dans le temps, et l'émotion rentre en jeu. Et donc, il y a une implication beaucoup plus forte autant de celui qui donne quelque part que de celui qui reçoit, et une inscription dans la durée qui va transformer fondamentalement souvent celui qui reçoit, mais également celui qui donne. Il y a énormément d'études scientifiques qui montrent à quel point nous sommes sensibles à notre environnement et à quel point tout se transmet. Alors, se transmettent pas seulement les belles choses. On a voulu centrer sur la transmission positive. On prend des exemples très simples. On dit qui se ressemble s'assemble, mais on voit aussi que qui s'assemble finit par se ressembler, et que si on met un enfant à côté d'un enfant qui triche, eh bien ça augmente considérablement les probabilités qu'il triche.
Donc ça devient contagieux finalement.
Ça devient contagieux.
Ouais. Alors, il y a vraiment des études qui sont menées sur ce thème
particulier. C'est une étude scientifique tout à fait sérieuse. Ouais. Une étude scientifique aussi, pas pour inquiéter les parents, montre que le premier prédicteur de délinquance d'un enfant, d'un jeune, c'est tout à fait indépendamment du niveau socio-éducatif de ses parents, c'est le niveau de délinquance de ses fréquentations, de ses meilleurs amis. Et donc, on est influencé considérablement par les autres et par l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, ça se transmet.
Ouais, Céline Alvarez, voilà, ça c'est vraiment le point sur lequel vous insistez. Hein, c'est ce qui favorise précisément cet environnement pour faire émerger une transmission plutôt positive, hein, en l'occurrence.
Exactement, mais c'est vrai que je pense qu'il y a deux types de transmission. Là, celle dont parle Ilio, c'est vraiment la transmission que j'appellerais informelle, c'est-à-dire que nous sommes soumis au processus de plasticité cérébrale, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre, le cerveau va de toute façon engrammer, encoder les expériences les plus fréquentes dans le milieu, donc qu'elles soient actives ou passives.
Donc c'est l'éponge, quoi, finalement, hein, qui va prendre tout ce qu'il voit de son environnement.
Exactement, le cerveau va vraiment littéralement se structurer, se spécialiser avec les expériences répétées. Donc il y a vraiment, c'est pas sélectif, c'est-à-dire que le cerveau ne va pas choisir les expériences qui sont de bonne qualité pour les engrammer. Non, il va simplement renforcer les connexions neuronales des expériences les plus fréquentes. Et puis il va défaire les connexions des expériences les moins fréquentes. Et donc ça, c'est la première chose. Effectivement, là,
il y a cette idée de répétition qui est très importante aussi dans cette idée de transmission.
Oui. Et là, on est vraiment soumis vraiment à l'environnement. Donc, quand on est dans un environnement qui est défavorable, que ce soit au niveau langagier, que ce soit au niveau des comportements sociaux, des réactions sociales, de la gestion des conflits, peu importe, c'est que même si on essaie et qu'on souhaite agir différemment, on va de toute façon engrammer ces schémas-là. Donc, c'est vraiment la transmission. C'est presque un sujet de santé publique, quoi, parce que l'adulte et les autres enfants aussi, on a tous en fait une énorme responsabilité sur les comportements qu'on présente à l'autre, parce que, qu'il le veuille ou non, il va les encoder d'une certaine façon, surtout s'il s'agit des comportements langagiers, sociaux, quotidiens, parce que c'est vrai que la transmission dont on parle là, elle ne s'opère pas uniquement quand on décide de transmettre, elle s'opère vraiment au quotidien, parce que nous transmettons ce que nous sommes dans nos comportements les plus fréquents.
Et de façon totalement inconsciente, là, dans ce cas de figure.
Complètement inconsciente. Et dans les deux sens, c'est pas seulement ça, je tiens à le dire quand même, c'est pas seulement de l'adulte à l'enfant, c'est aussi de l'enfant à l'adulte, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a constaté dans l'expérience de Gennevilliers. Quand les enfants ont commencé à se transformer dans la classe, donc avoir des comportements sociaux et moraux un peu plus sophistiqués, un peu plus élevés, eh bien, ça a transformé aussi les comportements des parents. Donc ça, c'est important, vraiment. Le cerveau humain reste plastique toute sa vie, même s'il y a une grande fenêtre plastique pendant les premières années de vie. On continue à recevoir et à incarner dans nos fibres neuronales toutes les informations du monde extérieur.
Petite parenthèse, comme l'expérience de Gennevilliers, parce que tout le monde ne la connaît pas. C'est une expérience qui a duré 3 ans, c'est ça, que vous avez menée.
Oui, dans une école maternelle, en zone d'éducation prioritaire.
Voilà. Ilios Kutsu, c'est le propre de l'homme, la transmission, ou pas? Ou est-ce qu'on peut aussi en voir dans le monde animal? Parce que ça, c'est un thème aussi qui va vous intéresser, je crois, l'année prochaine pour Émergence.
Oui, on voit aussi de la transmission dans le monde animal, en tout cas chez les grands singes, mais je pense dans beaucoup, beaucoup d'autres espèces. Ceci dit, dans notre ouvrage, on s'est davantage intéressé aux humains.
Homo sapiens,
et en rebondissant sur ce que Céline dit, sur la responsabilité qu'on a, au niveau individuel, si on est témoin d'un acte prosocial, cela va augmenter de 50% la probabilité que nous-mêmes nous conduisions de la même manière, par exemple en aidant quelqu'un à changer le pneu d'une voiture. Mais ça se transmet aussi au niveau des générations. Il y a une étude sur des Allemands qui avaient risqué leur vie pour sauver des Juifs dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une particularité, c'est que beaucoup plus qu'un groupe témoin auquel ils avaient été comparés, ils avaient eu des parents qui eux-mêmes étaient engagés. Très peu de stéréotypes sur les Juifs, ce qui était très malheureusement assez commun à l'époque, et donc il y avait des valeurs beaucoup plus fortes.
Ouais.
Et on sait que ces valeurs-là donc vont se transmettre au travers des générations. On sait aujourd'hui qu'au niveau épigénétique, au niveau des traumatismes, par exemple, il y a quelque chose dans l'expression des gènes qui va se transmettre
dans le stress.
Hein,
dans le stress, ça a été visible sur la souris, par exemple, sur les premiers travaux en épigénétique, mais sur l'humain aussi, on le sait maintenant.
Chez l'humain aussi aujourd'hui. Et donc, on peut se dire que dans nos manières de nous comporter individuellement, mais également socialement, nous avons une très grande responsabilité. Alors, comme ici, on souligne aussi les aspects positifs. Soulignons une belle histoire en Belgique en ce moment. Il y a un parc qui s'appelle le parc Maximilien. Et c'est un parc où arrivent les réfugiés qui, voilà, rejetés d'Irak, de Syrie, du Soudan, de pays vraiment en guerre très compliqués, dormaient dans le temps par terre dans le parc en hiver. Et là, il y a une mobilisation citoyenne de très grande importance, donc un groupe fermé Facebook qui fait que aujourd'hui, tous les réfugiés chaque nuit se retrouvent à dormir dans des familles, et donc des familles accueillent les réfugiés. Et on peut se dire
vous avez le droit de le faire en Belgique.
On a le droit. Voilà. Il y a une exception humanitaire qui fait que contrairement à la France,
c'est ça.
C'est possible. Et donc c'est de se dire quel exemple donnons-nous nous en tant que société lorsque nous laissons dormir quelqu'un au-delà de toute considération politique. Ce sont des choses compliquées, mais de laisser dormir un être humain dehors. Et quel exemple donnons-nous lorsque des citoyens se mobilise dans une forme d'intelligence collective extraordinaire pour, et c'est vraiment un mouvement qui s'est auto-organisé autour de bénévoles. Alors, je dis leur prénom juste pour leur rendre hommage, comme Mehdi, Adriana, Yone, qui sont des personnes qui restent parfois jusqu'à 2h du matin et qui ne quittent pas le parc tant que quelqu'un dort encore dehors. Donc, il y a des femmes, des enfants, des adultes. Et c'est une très belle histoire.
Céline
Alvarez. On retombe sur la notion d'exemplarité. Je pense que c'est important de porter cette notion-là sans y voir une valeur négative ou moralisante, moralisatrice. C'est surtout que on ne peut pas faire autrement. Nous sommes constamment des exemples les uns pour les autres. Et Donc nous avons cette responsabilité d'essayer de tendre à l'exemple le plus positif possible, parce que en permettant à l'autre d'intégrer, d'incarner des modèles et des schémas sociaux, des pro-sociaux, eh bien c'est toute la société, c'est un acte politique finalement, c'est toute la société qu'on va permettre de changer, de se transformer.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre cette discussion avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. I'm not awake, I'm not alone. You're right beside my face. Will you love me this way? 'Cause I'm dancing with my eyes closed. It's okay, it's me, babe. One more time for my taste. One more time for my taste. See me fall from your eyes to your waist. One more time for my taste. Drink this wine from your sweet, from your case. I feel your love, I feel your faithful ways. You're not awake. With your eyes closed, it's okay, it's me, babe. One more time for my taste. Sur France Inter, et c'était Taste dans la Tête au Carré.
La veille de mon départ, ma mamie vint dormir chez nous. Tous les matins, elle cueillait des fleurs de jasmin qu'elle mettait dans son soutien-gorge pour sentir bon. Quand elle dégrafait son corsage, les fleurs tombaient de ses seins. C'était magique.
Mamie, comment tu fais pour avoir des seins aussi ronds à ton âge ?
Je les mets 10 minutes chacun dans un bol d'eau glacée tous les jours.
Tu me manqueras.
Je viendrai te voir. Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté. Car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même.
Voilà, vous avez certainement reconnu la voix de la grand-mère dans Persepolis, ce film de Marjane Satrapi, Vincent Parrenot, sorti en 2007, pour parler justement de la transmission avec mes invités Ilios Kotsou et Céline Alvarez, et ce livre, donc Transmettre, ce qui est sorti aux éditions de l'Iconoclaste. Ilios Kotsou, on avait un bel exemple de transmission hein, entre la grand-mère et sa petite-fille.
Oui, magnifique. Et ça me faisait penser que cette transmission-là, elle est forte au point où elle touche même nos paramètres biologiques. Ça me faisait penser à une étude où on montrait qu'une maman qui était exposée à un modèle moral inspirant, non seulement elle était plus affectueuse avec son bébé, mais elle produisait aussi davantage de cytocine, et donc ce qui favorise l'allaitement. Et donc il y a vraiment un impact même au niveau de paramètres biologiques. La transmission est quelque chose de vraiment très très fort. Et puis c'était un très beau film, très touchant, qui nous montre aussi à quel point la transmission passe par un lien affectif entre deux êtres humains. Donc les émotions sont au cœur de la transmission.
Ouais, Céline Alvarez, vous disiez tout à l'heure à quel point justement ça se passe dans tous les sens, hein, horizontal ou vertical, entre par exemple des enfants, leurs parents, quand il y a des changements qui sont opérés au sein d'une classe, mais également évidemment les enfants et les enseignants directement.
Oui.
Vous avez observé tous ces changements-là ?
Oui, je les ai observés, mais effectivement, s'il y a bien un paramètre, une condition qui va permettre que cette transmission opère, ça va être tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'exemplarité, veiller à ce que les comportements et les valeurs que l'on souhaite transmettre aux enfants, nous les représentions nous-mêmes, nous les incarnions nous-mêmes. Et puis l'autre chose ensuite, c'est créer du lien. Donc là, c'est le deuxième type de transmission que j'allais évoquer tout à l'heure, c'est la transmission qui est plus formelle, c'est-à-dire quand on choisit consciemment de transmettre une connaissance à un enfant ou à un adulte. Et pour ce type de transmission, il existe, et là c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'évoquer aujourd'hui, il existe des lois, de la même manière qu'il existe des lois pour attraper les connaissances du monde extérieur, donc des lois d'apprentissage, il existe aussi des lois pour donner, pour transmettre. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé, et je regrette aussi également de ne pas avoir assez parlé de cela dans le livre.
Mais c'est des lois de quelle nature, au fond ? Ce sont des lois biologiques
Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que, on le sait bien aujourd'hui, nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres sociaux. Et bien, il se trouve que c'est très logique. Hein, mais pour transmettre, la transmission doit s'opérer dans le lien. Quand je parle du lien, c'est-à-dire... aujourd'hui, la recherche en sciences du développement humain parle de posture pédagogique naturelle. C'est-à-dire que quand l'adulte, on va parler de l'adulte et de l'enfant, quand l'adulte souhaite transmettre quelque chose à un enfant, donc une connaissance particulière, il va naturellement, donc c'est induit à un niveau biologique endogène, il va naturellement adopter une posture où il va se mettre au niveau de l'enfant, tant au niveau du ton de la voix que du regard. Il va chercher à diriger le regard de l'enfant, à s'adapter aussi à la direction du regard de l'enfant, et puis il va pointer avec le doigt ou avec son corps, il va diriger l'attention de l'enfant vers le sujet de la transmission. Et il se trouve que, à la fois, cette posture pédagogique naturelle va être naturelle chez l'adulte, mais elle va être reconnue chez l'enfant, ou chez un adulte, si c'est un adulte à la place de l'enfant, comme une situation d'apprentissage. Et à ce moment-là, l'attention chez les deux, mais particulièrement chez l'apprenant, va être exacerbée. Et donc, la transmission, c'est comme si le canal de transmission avait été posé. Et alors, à partir de ce moment-là, le lien humain étant positionné, les informations passent de manière extraordinaire. C'est vraiment le lien humain, l'attention partagée, l'attention jointe est vraiment un catalyseur pour la transmission et la réception de cette transmission, donc l'apprentissage.
Et le Skotsu, on voit qu'effectivement il y a ce besoin des hommes de transmettre, de partager. C'est quoi ? C'est vraiment un besoin de partage précisément ?
Oui, je pense que c'est un des besoins fondamentaux chez l'être humain. Dans les études, on identifie quelques besoins fondamentaux. On a un besoin d'autonomie, dont je pense que Céline nous parlera aussi, ce besoin d'autonomie qui est fondamental. On a un besoin de compétences, pouvoir agir sur le monde. On a un besoin de sens, mais on a un besoin relationnel. Et ce besoin de relation est vraiment au cœur de nos vies en tant qu'êtres humains sociaux, mais aussi au cœur du développement et de l'épanouissement. Et je crois que Céline me fait penser à une métaphore qui serait de dire que ici il y a quelque chose qui ressemble davantage à jardiner. Si on veut aider aux enfants à se développer, on va, tel une bonne jardinière, on va mettre en place un environnement dans lequel ces fleurs naturellement peuvent se développer, alors que une vision plus ancienne et très dépassée, c'est celle du charpentier. On avait une vision très très rigide de comment il fallait former les enfants, et donc on essayait de les contraindre dans un moule préfabriqué, et ça ne fonctionne pas très bien.
Et ça ne fonctionne pas très bien, à la fois pour les enfants, ça on le sait très bien, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que de la même manière qu'il est extrêmement brutal et violent d'imposer à nos enfants des manières d'apprendre qui ne respectent pas leur mécanisme endogène d'apprentissage, il est extrêmement brutal et inacceptable d'imposer aux enseignants une façon de transmettre qui ne correspond pas à leur façon naturelle de transmettre. Et parce qu'eux aussi sont en souffrance. C'est-à-dire que toute la journée, 6 heures par jour, ils doivent lutter contre un élan inné biologique qui les pousse à rentrer dans une connexion individualisée avec l'enfant. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ont tout un groupe classe à gérer de manière frontale, presque magistrale, même en maternelle, même si on fait des groupes, ça reste complètement... ça crée un conflit véritablement entre les tendances naturelles de l'adulte pour la transmission et ce qu'on lui demande dans la manière dont est organisée la transmission. Ça, c'est important de le dire parce que aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'outils innovants, de méthodes innovantes ou je ne sais quoi, comme des solutions. En fait, ça ne seront à chaque fois que des pansements sur une jambe de bois tant que nous n'irons pas modifier vraiment les fondations.
Alors, on va écouter justement la voix de quelqu'un qui vous a beaucoup inspiré et vous n'êtes pas la seule. Maria Montessori, extraite d'un document, d'une archive de 1947.
Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et d'exercer sa spontanéité. Alors, je prépare un milieu où il puisse vivre comme dans une maison. Et dans ce milieu, je mets une quantité d'objets qui sont aussi scientifiques et qui servent au développement de son intelligence. Alors, quand l'enfant, au lieu de jouer simplement, use tous ces objets, il se développe, il ne perd son temps. Il devient toujours plus intelligent, plus ordonné, plus discipliné. Et c'est un avantage pour lui. La maîtresse est comme une directrice de cet ambiant. Elle aide l'enfant dans son activité, mais ne le trouble pas, le laisse faire. Et de cette façon se développe une vraie éducation, parce que justement l'enfant devient plus intelligent.
Voilà, Maria Montessori, à l'origine évidemment de la méthode qui porte son nom. Alors, lorsqu'elle dit justement il faut aider les enfants à vivre naturellement, ça rejoint, vous la rejoignez quand vous évoquez ces lois endogènes qu'il faut respecter pour favoriser ce climat justement de transmission?
Oui, complètement. Ben, le travail de Montessori, ses intuitions étaient absolument d'une clairvoyance remarquable et vraiment troublante. Mais il faut bien quand même entendre aussi qu'on parle de travaux... Maria Montessori est morte en 1952. Elle a eu effectivement des espèces de fulgurances incroyables.
Sauf qu'elle n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Hein.
Qui sont vérifiées, mais d'autres qui sont encore, qui ne sont pas tout à fait justes et qu'il faut veiller à ne pas reproduire, même si c'est Maria Montessori qui l'a dit, par exemple. Ne pas déranger l'enfant lorsqu'il est en activité. Si, quand il est dans une activité qui est destructrice ou qui n'est pas constructrice, en tout cas pour lui, il faut l'arrêter. Il ne s'agit pas de laisser faire l'enfant et de se construire dans le désordre. Alors ça, effectivement, elle le disait elle aussi, mais elle avait créé une confusion sur ce genre de choses.
Et puis dans les années 50, les connaissances sur le cerveau n'étaient pas du tout les mêmes. Hein. Les neurosciences n'existaient quasiment pas. Hein.
Exactement. Donc c'est un bon point de départ, je pense incontournable, mais qu'il faut faire évoluer, il faut pousser en avant.
Violaine nous dit, j'aimerais savoir ce que pense votre invitée Céline Alvarez sur les écoles de type Sudbury Valley où les adultes ne sont pas là tant pour transmettre un savoir que pour faciliter l'apprentissage autonome de l'enfant. C'est déjà transmettre un apprentissage. Enfin,
Ce que montre bien la recherche, ils sont très clairs là-dessus, c'est que bien évidemment, il s'agit de permettre à l'enfant de se mettre en lien avec l'environnement extérieur. Donc puisqu'il a un mécanisme d'auto-apprentissage extrêmement puissant, donc il s'agit surtout de ne pas interagir d'interférer avec ce mécanisme et de laisser l'enfant se mettre en lien avec cet environnement. Mais ce que dit aussi la recherche, et ça on ne peut pas le nier, et ça peut être parfois un écueil dans ce type d'école. Alors je ne connais pas bien, je ne veux pas non plus jeter la pierre, mais de ce que j'ai pu entendre, laisser l'enfant trop faire et trop se mettre en contact tout seul avec l'environnement, il va manquer l'étayage nécessaire, le biais social qui va permettre à l'enfant de hiérarchiser les informations, le flot d'informations qui lui parvient du monde extérieur, surtout chez les tout-petits, et de hiérarchiser, d'ordonner par le vocabulaire, par le pointage, en modulant la voix, etc. Donc oui, permettre la mise en lien avec le monde extérieur, c'est essentiel et on ne le fait pas assez dans nos écoles, mais on ne peut pas se passer de l'étayage de l'adulte. Et ça, vraiment, la recherche le dit hein, clairement. Une phrase comme ceci, je crois que c'était la pédagogie de la découverte pure est à proscrire.
On se retrouve dans un instant. On poursuit la discussion avec d'autres messages pour vous sur franceinter.fr.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Et la rue Madureira avec la voix de Nino Ferrer.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Ça, c'est moi. Et là, trois personnes. Je commence par leur rendre service, mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils pourraient pas faire tout seuls. Donc je le fais pour eux. Et ils passent le relais en faisant pareil pour trois personnes. Ça en fait 9. Et là, ça en fait 3 autres.
Oui?
Elle est géniale, son idée.
Sean?
C'est débile.
Adam?
Mais tout repose sur la confiance.
On peut pas faire confiance aux gens.
Et alors?
À toi, on peut pas.
Trevor, la classe a l'air de penser que votre idée est un peu trop utopique.
Voilà, ce film Un monde meilleur avec Kevin Spacey et Helen Hunt en 2001 pour parler de la transmission avec mes invités Céline Alvarez et Elios Cotsou, un film que vous aviez vu. Elios Cotsou, oui. Hein, vous vous souvenez de cette scène en particulier devant le tableau noir.
Et ce film beaucoup moins utopique que ce qu'on veut bien le dire, puisqu'il y a une théorie qu'on appelle celle de la contagion sociale, deux professeurs de San Diego et de d'Harvard quand même, et qui ont montré que nos comportements impactent des gens jusqu'à 3 degrés de séparation, donc des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Alors eux s'intéressaient aux maladies cardiovasculaires à la base. Mmh. Ils ont montré que même nos choix électoraux, notre bien-être et bien sûr nos comportements prosociaux et altruistes allaient se transmettre dans les réseaux sociaux. D'où l'impact que nous pouvons avoir, comme le film le montre très bien.
Et dans notre entourage proche, hein, c'est-à-dire que ça démarre d'abord là.
Ici, jusqu'à 3 degrés, nous allons impacter les gens. Ouais. Et ça nous montre, je crois à nouveau, à quel point c'est important. Nos petites actions qui paraissent tout à fait anodines peuvent être vraiment importantes, et la force des modèles. Alors, ça me fait penser à une statistique qui nous dit qu'aux États-Unis, en France c'est un peu différent peut-être, mais un enfant de 12 ans a été exposé à une moyenne de 8000 meurtres. Mais en réalité, est-ce que réellement une personne va dans sa vie être confrontée à ça? Pas du tout. Et donc je crois que ce que l'on montre, soit qu'on est exposé le plus souvent, nous influence. On sait que avoir vu un film violent va augmenter de 7 fois la probabilité d'un comportement agressif juste après. Ça ne veut pas dire à long terme. Et on peut se dire que voilà, il y a un livre que je proposerai aux éditeurs de lire, qui est celui de Steven Pinker, qui s'appelle Cette part d'ange en nous, qui nous montre qu'en fait le monde autour de nous va beaucoup mieux que ce qu'on imagine.
Ouais, ça c'est une vision qui peut troubler hein, quand même. Par rapport à ce qu'on vit au quotidien.
Mais qui est vrai sur des chiffres scientifiques. Et le fait de le montrer, et le fait de montrer des exemples de comportements prosociaux, le fait de montrer que le monde ne va pas aussi mal, le fait d'illustrer tout ça, a un impact véritable.
Parce que ça favorise un environnement particulier, justement, pour peut-être aussi poser un autre cadre social.
Ça favorise un environnement où règne la confiance, où il y a un peu plus d'enthousiasme, et donc on sait très bien que les environnements où règne la confiance, la bienveillance, l'enthousiasme, la chaleur humaine, eh bien, ce sont vraiment des environnements dans lesquels l'intelligence humaine va s'épanouir et va développer le meilleur de ce qu'elle peut développer, tant au niveau langagier qu'exécutif, au niveau social, au niveau moral. Donc oui, il est vraiment important de cultiver et de promouvoir toutes ces belles choses qui se passent.
Ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça se fait même en dehors de notre volonté, parce qu'il y a un effet d'imitation, de contagion, qui est là aussi le propre de l'homme. Probablement aussi d'autres animaux, mais...
Tout à fait. C'est très étonnant, mais ça nous montre aussi que, qui que nous soyons, nos comportements ont un impact. Donc ça nous donne une responsabilité, mais c'est aussi porteur d'optimisme. Ça nous montre que nous pouvons changer les choses, chacun à notre niveau. Et en pensant à ces modèles qui changent le monde, je pense à l'ancien président de l'Uruguay, par exemple, Pepe Mujica.
C'est ça, qui a passé 13 ans en prison, sous le régime de la dictature uruguayenne.
Exactement, et qui venait pourtant de la lutte violente à la base, et qui s'est révélé quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa politique, de profondément cohérent, qui a donné 90% de son salaire à des œuvres sociales, qui a refusé d'habiter dans le palais doré à Montevideo pour justement aider des personnes qui étaient réellement dans le besoin.
Il a gardé son titre d'agriculteur d'ailleurs, au lieu de président de l'Uruguay, qu'il a été d'ailleurs jusqu'en 2015. Hein.
Quelque chose comme ça. Ouais. Pour moi, c'est une personnalité vraiment très très inspirante.
Et c'est vrai que la cohérence pour la transmission est vraiment capitale, parce que s'il y a un conflit entre les informations auditives, entre ce qu'on dit, entre les informations auditives que perçoit l'enfant et entre les informations visuelles qu'il perçoit, donc nos comportements, s'il y a un conflit, ce sont nos comportements qui vont remporter la partie. C'est important parce que je crois qu'on le fait vraiment tous. Je repense à un parent qui était devant la classe où l'expérience se réalisait. Donc il y avait un banc devant la classe où les enfants s'asseyaient et se déchaussaient et mettaient leurs chaussons. Et le papa qui avait le pied donc appuyé, donc était debout avec un pied appuyé sur le banc, se fâchait vraiment très fort avec son enfant en lui disant descends. Son enfant était monté sur le banc donc avec ses chaussures, il disait mais descends du banc, tu n'as pas à être sur le banc avec tes chaussures. Et j'ai senti cette espèce d'incompréhension totale de l'enfant qui percevait des informations auditives, mais qui visuellement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son papa qui a le pied sur le banc. Évidemment, l'enfant ne descend pas. Et ça a été un conflit qui finalement, c'est bien terminé. Mais je pense qu'il faut qu'on veille à la cohérence. Je suis tout à fait.
Et ça passe par la voix. Vous revenez beaucoup sur cet aspect-là.
C'est-à-dire ?
Vous parlez de l'aspect auditif et de la façon de dire les choses aussi.
Oui, ça c'est pour, créer le canal en fait. Ouais. Pour créer le canal à travers lequel va passer l'information d'un être humain à un autre. Et c'est par le canal de la voix, du regard, du pointage, eh bien on va créer ce qu'on appelle, ce que les scientifiques appellent une attention partagée, une attention jointe. Et c'est par l'intermédiaire de cette attention jointe que vont passer les informations de manière extrêmement puissante.
Les questions des auditeurs, Michel Ilioskoutsou, pardon, je vous coupe.
Je disais juste à ce propos une citation d'un ami psychiatre que j'aime beaucoup qui disait, Edelmax, qui disait « En prêchant le respect à un enfant, on ne lui apprend pas le respect, on lui apprend à prêcher. » Si on veut apprendre le respect à un enfant, ce qu'il faut, c'est commencer par le respecter.
Exactement.
Michel nous dit « Est-ce que vous ne pensez pas que certains jeunes en déshérence aujourd'hui sont victimes d'un déficit de transmission de la part de leurs aînés, parents, mais surtout grands-parents ? » Allons bon, on va s'attaquer aux grands-parents.
Si je peux me permettre, ils sont d'abord en manque de lien, pas en manque de transmission. C'est parce qu'il manque du lien, parce qu'on est dans une société qui, je ne sais pas pour quelle raison, qui s'obstine à nous cloisonner les uns les autres. C'est les enfants, les petits à la crèche, après les autres à la maternelle, les autres en élémentaire, les autres au collège, au lycée, et puis après c'est les actifs, les moins actifs, les retraités.
Donc vous dites quoi ? Mélangeons-nous ?
Mais bien sûr. La transmission opère par le lien. Si nous coupons le lien, il n'y a pas de transmission. Et on est là tout malheureux à se dire, mais on n'arrive plus à se transmettre les choses. Ben oui, mais on a coupé le lien.
Ilioskoutsou ?
Je suis complètement d'accord et je crois qu'on voit autour de nous énormément d'initiatives qui vont dans ce sens-là, dans tous les domaines. À l'école, bien sûr, mais on peut penser aussi à notre démocratie qui est parfois un peu fatiguée. Cette question de démocratie davantage participative, c'est aussi redonner du lien, du sens, de l'autonomie, qu'on participe ensemble. On peut penser à l'entreprise apprenante. Énormément d'initiatives d'entreprise apprenante ou d'une structure hiérarchique rigide. On va vers une entreprise où l'intelligence collective va donner des résultats tellement plus extraordinaires. On peut penser à une médecine davantage participative, où il n'y a plus cette césure entre celui qui sait, le médecin qui sait, et le patient qui ne sait rien, mais où il y a un vrai dialogue où chacun va prendre sa part ensemble pour améliorer les choses. Donc ce monde en réseau, on peut beaucoup critiquer ces réseaux sociaux pour ses effets délétères, mais on peut aussi le reconnaître, une participation importante qui va revivifier, à mon avis, notre démocratie.
Donc là aussi, on a un bon canal de transmission aussi, quand on sait s'en servir à bon escient. La question de la résilience, elle est intéressante aussi, elle est abordée dans l'ouvrage. Est-ce qu'on peut finalement transmettre ce qu'on n'a pas reçu, Céline Alvarez ?
Alors, je pense que c'est quand même assez difficile parce qu'il faut qu'on puisse avoir intériorisé des schémas pour pouvoir les extérioriser. Donc, on peut. Ensuite, ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas parce que nous avons eu peu d'un modèle bénéfique et qu'on souhaiterait extérioriser qu'on ne pourra pas l'extérioriser. Il suffit, je crois que c'est Boris Cyrulnik qui parle de tuteur de résilience. Ouais. On peut avoir une vie catastrophique avec beaucoup de difficultés, de peines, voire de la maltraitance. Il suffit qu'il y ait un tuteur de résilience une fois qui dise ça, ce n'est pas normal, ou qui montre une autre façon de se comporter, d'échanger ou de peu importe, de gérer les conflits. Eh bien, ce sera quand même suffisamment important pour faire levier et pour induire d'autres comportements. Mais je crois que c'est nécessaire d'avoir, à un moment donné dans sa vie, d'être dans un environnement ou face à une personne qui va permettre qu'un autre schéma, au moins, pose une petite graine, germe.
Ilioskoutsou, vous partagez ce sentiment ?
Oui, et c'est important de se rendre compte que la résilience, c'est quelque chose de beaucoup plus commun que ce qu'on imagine. Oui. Et donc la résilience est présente chez la majorité des personnes. Et je crois que quand on dit « peut-on donner ce qu'on n'a pas reçu ?», on imagine plutôt le cas, je donne un exemple triste, mais de personnes qui ont été maltraitées dans l'enfance. Bien sûr qu'elles peuvent donner de l'amour. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pu peut-être se donner elles-mêmes ce qu'elles n'ont peut-être pas reçu de quelqu'un. Et je crois qu'il faut le voir de cette manière-là, c'est de dire que nos capacités de résilience sont tellement extraordinaires que quel qu'était notre passé, nous avons tous la possibilité de guérir, et cette forme de guérison-là fait que nous pouvons nous donner à nous-mêmes ce que par la suite nous pouvons donner aux autres. Évidemment que les tuteurs de résilience sont importants, et que ça me fait penser à Christiane Singer qui disait que la transmission, c'est comme cette attention portée à l'autre qui lui permet de montrer le meilleur de lui-même. Et je crois que la transmission, c'est aussi ça au niveau individuel et collectif, c'est éclairer, souligner, arroser ce qu'il y a de meilleur au niveau individuel comme collectif pour permettre à toutes ces choses-là de fleurir.
Alors, dans ce livre, et pour terminer, parce qu'il nous reste très peu de temps, on peut effectuer quelques exercice d'introspection pour savoir justement quelles sont les transmissions qui nous ont tissé nous-mêmes. Ça, c'est ce que vous proposez justement. On peut aussi apprendre à écrire des lettres de gratitude. Ça, c'est un exercice que vous avez proposé, Ilios Kotsou. Et puis, vous mettez aussi une liste d'initiatives qui placent la transmission au cœur de l'engagement. Ça, c'est intéressant dans plein de domaines. Ceux de la naissance, par exemple, de l'éducation. Il y a l'accès au savoir, la mémoire, l'écologie ou la solidarité. Donc, vous avez donné tout un tas de sites que vous avez sélectionnés selon ces critères-là, avec des adresses en France ou
en Belgique, en Suisse, dans le monde francophone, pour permettre aux personnes d'aller un peu plus loin. Et cet exercice de gratitude, il est très beau, puisque la gratitude est vraiment au cœur de la transmission. Transmettre, c'est quelque part être un passeur, une passeuse, entre des choses qu'on a reçues, celles qu'on va donner. Et donc, la gratitude, c'est reconnaître les bienfaits de ce que nous avons reçus, pour pouvoir nous ouvrir et les partager aux autres.
Voilà, pour ceux qui souhaitent nourrir leur soif de transmission, avec cet ouvrage donc, qui est sorti aux éditions L'Iconoclaste, Transmettre ce que nous apportons, ce que nous apportons les uns les autres, avec entre autres donc Céline Alvarez, Christophe André, Frédéric Lenoir, Mathieu Ricard, qui parle beaucoup de ses maîtres aussi hein, dans ce livre, parce que ça c'est un aspect très important aussi, ceux qui arrivent comme ça à nous influencer.
Oui, et c'était touchant de la part de Mathieu Ricard, qui, quand il a parlé de ses maîtres et son message, rejoignait celui de Céline très clairement en disant « Le messager est le message », et ce qui l'avait impressionné, c'était cette manière d'incarner de manière très authentique le message qu'il voulait faire passer.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus cet après-midi dans La Tête au Carré. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidal.
La transmission de nouvelles affaires sensibles dans
Exactement,
un instant.
Exactement, je vais devenir vecteur d'attention jointe. C'est bien ça, j'écoute bien votre émission.
Ouais, c'est bien, bravo.
Je vais vous transmettre aujourd'hui Les évadés d'Alcatraz.
Ah oui, très bien.
Qui donne lieu à un film d'ailleurs. Une histoire vraie, évidemment. Et notre invité, c'est Thomas Snegaroff, journaliste spécialiste de l'histoire américaine.
On ira au large de San Francisco avec vous
Absolument.
Dans un instant. Merci beaucoup Fabrice et merci à Julien Chabessu et Vincent Godard qui étaient à la technique aujourd'hui. Il est 15h.